Vous êtes sur RTL.
Place à l'info RTL Soir, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle, bienvenue dans RTL Soir. Bonsoir à tous, c'est parti pour deux heures d'infos avec vous, avec toute la rédaction de RTL. Et ce soir à la une, bientôt la fin du masque en classe. Le gouvernement assouplit les règles à l'école primaire dans les départements où le virus circule peu. La mesure entrera en vigueur le 4 octobre. Alors elle séduit les enfants, mais déjà elle interpelle les médecins, les parents, les enseignants. Desserrer l'étau autour de la seule population non vaccinée, est-ce paradoxal, est-ce risqué? On s'interrogera avec la brigade RTL et avec notre invité Jean Rottner, président de la région Grand Est. Certains de ces territoires sont concernés. On reviendra aussi avec lui sur ses soins déprogrammés à l'hôpital de Mulhouse. Soins déprogrammés faute d'effectifs depuis les suspensions de soignants non vaccinés. Les autres titres de l'actualité maintenant à suivre dans votre journal. Marion Calais, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Nous pardonnons, mais nous n'oublions pas. Document RTL ce soir. Le témoignage de l'oncle du jeune Ibrahima, tué lundi soir au Lila en Seine-Saint-Denis. Dans ce journal aussi, intervenir malgré le danger au procès des attentats du 13 novembre. Le témoignage du commissaire qui a été le premier à entrer dans le Bataclan. Et puis indiscrétion RTL, une clause Fillon. Si le candidat des Républicains devait être en difficulté pendant la campagne, il pourrait être débranché pour éviter un scénario à la 2017. Et puis les courses à Amiens dans le Quintet Plus, il fallait jouer le 2, le 7, le 10, le 13 et le 3.
À suivre aussi, laissez-vous tenter dernière. 250 bandes-annonces dévoilées demain à Deauville. En clair, le programme de votre année ciné, ce sera tout à l'heure après 18h30. À 18h40, on va défaire le monde. 20 minutes d'actu autrement avec Cyprien Sini et la fine équipe. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Le menu.
Ce soir, on défait le monde, vous emmène à la découverte des ultras du foot qui défraient la chronique sportive et judiciaire. Et puis on vous parlera aussi des états d'âme de Marion Cotillard et de Toilettes de l'espace.
À 19h15, on va refaire le monde, débattre notamment du masque à l'école autour d'Éric Brunet. Tout au long de l'émission, des points aussi sur le temps avec vous, Peggy Broche, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
La tendance.
Demain, encore une très belle journée ensoleillée.
On vous retrouve à la fin du journal.
À tout à l'heure.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
Mais avant toute chose, ce document RTL, un témoignage bouleversant, et le mot est sans doute faible, de l'oncle de l'adolescent tué lundi soir au Lila, c'est près de Paris.
Ibrahima avait 16 ans, il se promenait avec deux amis dans la rue quand il a été poignardé par un jeune de 17 ans qui devrait être mis en examen aujourd'hui. Sur RTL, son oncle Ousmane Diaité demande justice, mais sans haine ni rancœur.
Ibrahima est parti à la fleur de l'âge. Il avait tout son avenir devant lui. Donc aujourd'hui, nous, on se trouve dans un deuil qui est très lourd. Mais on sait qu'Ibrahima était quelqu'un de droit, de juste. Il n'a jamais trempé dans quoi que ce soit. Ibrahima ne connaissait que l'école, le foot, la maison. Voilà, il est parti gratuitement, gratuitement. Il était au mauvais endroit, au mauvais moment. On a doublement perdu, on a perdu notre fils. Mais on perd un jeune aussi qui devient, par la force des choses, un criminel. Est-ce que c'est ce monde-là qu'on veut laisser en avenir à nos enfants? Je ne pense pas.
Et est-ce que pour vous, la mort d'Ibrahima a été inutile? Est-ce qu'elle aurait pu être évitée?
La mort de tout jeune est inutile. C'est la manière dont il est parti qui aurait pu être évitée. Il est parti dans des circonstances qui sont des circonstances très dures. Et cette manière dont il est parti doit être une leçon pour nous, on doit la pointer du doigt, et c'est pourquoi je dis que nous pardonnons, mais n'oublions pas. On n'a aucune haine, parce qu'Ibrahima était quelqu'un qui n'avait pas de haine. Ibrahima aurait pardonné à celui qui a fait cet acte, c'est pourquoi nous on pardonne. Par contre, Ibrahima aurait voulu que justice soit faite. Ce jeune n'est que le bras armé d'une société en faillite. Et la réalité, c'est qu'Ibrahima ne reviendra plus, et on ne peut pas revenir en arrière. Et on lance un appel à tous les jeunes. Toutes les mamans, quel que soit le quartier d'où ils sont, quelle que soit la ville d'où ils sont, quelle que soit leur couleur, on est tous français. N'acceptons pas qu'on nous sépare, qu'on nous communautarise, qu'on nous stigmatise. On est tous pareils. Tout le monde veut que son enfant réussisse. Tout le monde a mal quand son enfant a mal. Merci à Ibrahima de ce qu'il a fait pour nous. Dans sa courte vie, il nous a vraiment élevés. Il nous a irradié de son sourire, de sa joie de vivre. Merci, merci à toi Ibrahima.
N'acceptons pas qu'on nous sépare. Le témoignage tout en dignité de l'oncle de ce jeune tué lundi soir au Lila. Il se confiait à Aurélia Valarier pour RTL.
RTL Soir.
La décision a été prise ce matin. Les masques vont donc tomber à l'école primaire. Bonsoir William Galibert.
Bonsoir.
Ce sera à partir du 4 octobre. Mais pour qui exactement?
Alors le cahier des charges est assez strict. Cela concernera les départements où les contaminations sont en dessous des seuils d'alerte depuis au moins 5 jours. En dessous de 50 cas pour 100 000 habitants. Aujourd'hui, on est à une quarantaine de départements qui remplissent ces critères. Ça va du Pas-de-Calais au Gers, ça va du Finistère aux Vosges, ça passe par le Cantal, la Lozère ou encore la Vendée. Et d'ici ce lundi 4 octobre, la majorité des départements devraient être concernés. Les enfants de primaire pourront donc enlever les masques. Mais ce qui ne bougera pas, c'est la fermeture des classes dès qu'un cas de Covid y est détecté.
Pour ce qui est du pass sanitaire maintenant, William, rien ne change.
Oui, là, quel que soit votre département, on le garde tel quel pour l'instant, et le porte-parole du gouvernement explique que d'après lui, il n'y a pas urgence à se débarrasser de ce pass sanitaire.
Je n'entends pas que ce sujet-là soit la principale préoccupation aujourd'hui des Français. L'écrasante majorité des Français voit aujourd'hui très bien que le pass sanitaire fonctionne et de manière simple.
Ce qui est à l'étude, en revanche, c'est un aménagement de ce pass sanitaire de manière locale pour ne plus l'exiger, par exemple, en terrasse quand le virus ne circule presque plus. Mais on nous a prévenu, ce n'est pas pour tout de suite.
Les explications de William Galibert du service politique d'RTL. Par ailleurs, toujours en fonction de l'incidence dans les départements, les jauges en vigueur dans les salles de concert debout ou les discothèques pourront aussi être levées.
Il y a un an et demi, c'était l'épicentre de l'épidémie. Un hôpital militaire y avait même été installé, la symbolique. Et donc, ce soir, d'autant plus forte. Aujourd'hui, les hôpitaux de Mulhouse n'ont plus assez de personnel soignant pour poursuivre normalement leur activité.
Sur 6000 salariés, plus de 170 ont été suspendus car non vaccinés. Le plan blanc a donc dû être activé. Samuel Goldschmidt, vous êtes à Mulhouse pour RTL. La direction tient bon. Les non vaccinés aussi, ils ont d'ailleurs manifesté aujourd'hui.
La mise en scène a lieu devant l'entrée principale de l'hôpital. Des soignants suspendus qui sont couchés à terre sous des draps blancs comme des linceuls, un chant des partisans aux paroles adaptées. Les soignants manifestants protestent de leur bonne volonté.
On nous prive de notre liberté d'aller soigner des gens qui ont besoin de nous, quoi.
Cette démonstration devant l'hôpital qui a connu le pire de la première vague, le chef du service de pneumologie Didier Debieuvre a du mal à la digérer.
L'obligation vaccinale, c'est simplement parce que le bon sens n'est pas une donnée universelle et puis que effectivement les gens ne le font pas spontanément. Moi, ça devrait être spontané. Je considère même qu'un professionnel de santé qui ne se vaccine pas contre la grippe tous les ans et contre la Covid, à l'heure actuelle, c'est une faute professionnelle.
Résultat, il y a 174 décisions de suspension actuellement. Avec les arrêts maladie, ce sont 210 personnels qui manquent à l'appel. Le reste de l'effectif doit se débrouiller pour maintenir à flot l'hôpital tout entier.
Samuel Goldschmidt à Mulhouse pour RTL. En Nouvelle-Calédonie, 16 jours après la découverte des premiers cas de Covid, 49 morts désormais, dont 16 rien qu'hier, et le pic épidémique n'est pas encore atteint. 70 membres de la réserve sanitaire sont arrivés sur place hier. Son intervention a sans doute sauvé des dizaines de vies. Il est le premier à être entré dans le Bataclan. Le commissaire de la BAC qui, 10 minutes après le début de la fusillade, a tué l'un des terroristes, témoigne aujourd'hui au procès des attentats du 13 novembre.
Cindy Hubert, vous êtes au Palais de Justice de Paris pour RTL, où ce commissaire a donc fait le récit d'une intervention au péril de sa vie.
Il a suffi d'un regard avec son coéquipier devant l'entrée du Bataclan. On n'a pas besoin de se parler, on sent qu'il faut qu'on entre. À ce moment-là, notre seule certitude, c'est qu'il y a des terroristes avec des armes de guerre qui massacrent des innocents et nous, on a seulement un pistolet chacun. Nous progressons dans le vestibule avec cette idée qu'on ne fera peut-être jamais le chemin retour. La lumière est aveuglante, au sol, un tapis de corps. Je me suis dit, comment ils ont fait pour tuer autant de personnes en si peu de temps? Un terroriste est sur scène, son arme pointée sur un otage. Je me place sur une rambarde du bar, on tire. Samy a Mimour explose, puis il y a des tirs nourris depuis l'étage dans notre direction. On sort, mon collègue me dit « Patron, il faut attendre la BRI ». J'ai dit non, on y retourne. J'ai laissé un message à ma femme, 5 secondes, je t'aime. À l'intérieur, les gens gémissaient, nerveusement, c'était plus possible. J'ai décidé qu'on allait commencer à sortir des victimes de la fosse. Je me souviens de ce petit garçon de 5 ans, un casque anti-bruit sur les oreilles, caché sous un corps qu'on a pris dans les bras. L'assaut est enfin arrivé. À 3h30, on a été libérés du service. Et au petit matin, on est rentré chez soi et on a essayé de revivre comme avant.
Compte rendu d'audience glaçant signé Cindy Hubert pour RTL.
Deux mineurs de 16 et 17 ans en garde à vue ce soir à Saint-Étienne-du-Rouvray. Ils sont soupçonnés d'avoir été dans la voiture qui a renversé et tué un petit garçon de 5 ans hier soir et d'avoir pris la fuite après les faits. Tous deux nient avoir été au volant.
Allez, on marque une pause et dans un instant dans ce journal, les Républicains qui se préparent en cas de pépin pendant la présidentielle. Tiens, tiens, à tout de suite sur RTL.
RTL soir. Julien Cellier. Julien Cellier.
RTL Soir.
Et 18h12 minutes, la suite de votre journal donc sur RTL. Ils n'ont pas encore désigné leur candidat que déjà, ils se préparent au pire.
Et selon vos informations, Aurélie Herbemont, les Républicains ont d'ores et déjà prévu de pouvoir changer de candidat si un scénario à la François Fillon en 2017 devait se reproduire.
Oui, si jamais le candidat est empêché pour une raison ou une autre, le bureau politique de LR pourra le débrancher et le remplacer. Qu'il ait été élu par 80 000 personnes ou plus en cas de primaire. Ça ne s'appellera pas la clause Fillon, mais c'est une conséquence directe de la campagne de 2017. François Fillon, largement vainqueur de la primaire, empêtré dans ce qu'on avait appelé le Penelope Gate, l'affaire des salaires d'assistante parlementaire de son épouse, avait refusé de se retirer malgré sa mise en examen et malgré les nombreuses défections d'élus dans sa campagne, assorties d'appels à changer de candidat. Au final, François Fillon n'avait pas été qualifié pour le second tour. Et donc LR veut éviter de se retrouver à nouveau piégé dans ce genre de situation en prévoyant une clause d'empêchement du candidat.
Aurélie Herbemont, les Républicains qui sont réunis en ce moment en bureau politique pour désigner leur candidat en vue de la présidentielle avec plusieurs scénarios, soit un congrès réservé aux adhérents, soit une primaire ouverte aux sympathisants de droite et du centre.
Critiqué pour ses dépenses nombreuses ces dernières semaines, le gouvernement assume et se défend.
Face à l'opposition qui dénonce une campagne faite avec le carnet de chèques des Français, face au Haut Conseil des Finances Publiques qui parle d'un budget incomplet, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a défendu la sincérité du budget.
Nous aurions, depuis le début de la rentrée, cramé la caisse, laissé filer les déficits, pratiqué la politique du chéquier. Mensonge. Nous vous avons dit en juillet qu'il y aurait environ 11 milliards d'euros de dépenses de l'État supplémentaires. Toutes les dépenses annoncées par le président de la République et par le Premier ministre ne font que décliner ces 11 milliards d'euros.
Bruno Le Maire, le ministre de l'économie au micro RTL d'Anaïs Bouissou. Emmanuel Macron se serait entretenu déjà alors qu'il est avec son homologue américain Joe Biden après les tensions suscitées par le dossier des sous-marins. L'Australie ayant préféré à la France un partenariat avec les États-Unis et le Royaume-Uni. Il n'y a là-dedans rien qui mérite d'en faire toute une affaire pour le Premier ministre britannique Boris Johnson.
Donnez-moi un break. Because this is fundamentally a great step forward for global security.
Donnez-moi un break, laissez-moi souffler, c'est fondamentalement,
paix, hein,
c'est aussi comme ça qu'on peut le traduire, une grande avancée pour la sécurité mondiale. Boris Johnson, hein, agacé donc par cette affaire des sous-marins.
Direction l'Allemagne maintenant, avec un fait divers tragique qui ravive les tensions autour des contraintes sanitaires et surtout qui est en train de bousculer les derniers jours de la campagne.
Et on va ainsi intéresser avec vous, Émilie Beauchard, bonsoir.
Et bonsoir.
Du service international de RTL. Ce fait divers, c'est le meurtre de l'employé d'une station-service par un anti-masque.
Oui, Alexander, 20 ans, est derrière sa caisse samedi dernier, comme tous les week-ends, pour payer son permis de conduire. Dans l'après-midi, un homme entre, s'achète un pack de bière et se dirige vers Alexander pour payer. L'étudiant lui fait alors remarquer qu'il n'a pas de masque, qu'il doit en porter un, sans quoi il ne l'encaissera pas. L'homme s'énerve, repart, mais moins d'une heure après, il revient, se poste devant Alexander, sort une arme et tire à bout portant dans la tête du jeune homme. Il s'est rendu à la police le lendemain. L'homme a 49 ans et il explique que les mesures de restriction sanitaire l'ont rendu fou.
Et évidemment, ce meurtre fait beaucoup réagir à 4 jours du premier tour des élections législatives.
Oui, tous les candidats à la succession d'Angela Merkel ont pris la parole. Tous s'inquiètent de la radicalisation du mouvement des anti-masques et des anti-vaccins. Une mouvance infiltrée par les complotistes et l'extrême droite. Les policiers ont découvert au domicile du tueur plusieurs armes et des munitions.
Les précisions d'Émilie Beaujard pour RTL. Merci.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Une bonne nouvelle pour Notre-Dame, la cathédrale. 842 800 000 euros récoltés. Le général Georges Lain, en charge de la reconstruction, a salué un élan de générosité qui ne se tarit pas et qui permet d'envisager l'avenir avec confiance. Objectif, on le rappelle, réouverture en 2024.
Oui, objectif. Merci beaucoup Marion, à tout à l'heure sur RTL. Le temps maintenant, Peggy, ce sera aussi bien demain?
Exactement, toujours après dissipation de quelques brouillards, quelques grisailles matinales, mais ensuite plein soleil pour tout le monde, ou presque. Toujours une petite nuance, puisque c'est vrai que les nuages vont résister l'après-midi sur le littoral de la Manche et sur les Pyrénées, un peu comme aujourd'hui, avec une petite averse possible sur le relief. Les températures, encore fraîches demain matin, il faudra se couvrir. 4 degrés à Nevers, 5 à Reims et Nancy, 7 à Alençon et Besançon, 11 à Paris et Bordeaux, 16 à Perpignan, et les maximales, elles seront globalement stationnaires. 18 à Cherbourg, 22 à Lille, 23 à Paris, Bourges, Mulhouse, 24 à Lyon et Limoges, 26 à Toulouse, 27 à Marseille et 28 à Ajaccio.
Merci Peggy. Une courte pause et ensuite on va s'interroger dans RTL Soir. Avec la fin du masque à l'école, est-ce que le gouvernement prend un risque? Jean Rottner sera avec nous. C'est le président LR de la région Grand Est. Certains de ces territoires sont directement concernés. Et puis on va se pencher aussi avec lui sur cette tension, vous l'avez entendu, à l'hôpital de Mulhouse. Des soignants non vaccinés sont suspendus et donc des soins sont déprogrammés.
RTL Soir avec Julien Cellier. Julien Cellier, RTL Soir.
18h20 et RTL Soir continue. On va maintenant s'arrêter sur cette décision finalement surprise. À partir du 4 octobre, écoutez bien, les masques tombent à l'école primaire dans les départements où le Covid circule peu, c'est-à-dire avec un taux d'incidence à moins de 50 cas pour 100 000 habitants. Bonsoir Jean Rottner.
Bonsoir Julien Cellier.
Vous êtes le président de la région Grand Est, vous êtes également médecin. Alors si la décision entrait en vigueur demain, 5 de vos départements seraient concernés. Vosges, Haute-Marne, Ardennes, Meuse, Aube, tous sont repassés sous le seuil d'alerte. Et tant mieux. Alors la fin du masque à l'école primaire, bonne ou mauvaise idée? Restez avec nous Jean Rottner pour mieux comprendre. On va rapidement poser trois questions à notre brigade RTL. Bonsoir Agathe Landais.
Bonsoir.
Déjà, quid des chiffres de l'épidémie chez les jeunes? Est-ce qu'ils sont encourageants?
Alors oui, plutôt. Les nouvelles contaminations sont en baisse dans toutes les tranches d'âge, donc y compris chez les petits. Aujourd'hui, 48 enfants sont hospitalisés pour Covid dans toute la France. 6 sont en réanimation. Le problème, c'est qu'il est encore trop tôt pour évaluer les effets de la rentrée scolaire sur l'épidémie. On saura plutôt à la fin du mois si le brassage dans les classes fait repartir les contaminations. Ces données seront très observées, hein, car on sait que le variant Delta est 2 à 3 fois plus contagieux, y compris chez les plus jeunes.
Donc ça semble risqué d'enlever le masque à l'école, alors même que les enfants représentent la seule population non vaccinable aujourd'hui.
Oui, c'est bien simple en fait. Les infectiologues avec lesquels j'ai pu discuter me disent qu'ils ne comprennent pas cette décision. Elle arrive trop tôt et ses effets sont trop incertains. D'autant plus que dans moins d'un mois, les tests ne seront plus gratuits. Il y aura donc un suivi moins précis de la situation virale. Ils redoutent aussi la météo. L'automne arrive, on sera plus souvent en intérieur, dans des lieux mal aérés et un climat plus frais et plus humide, c'est idéal pour la propagation du virus. Enfin, dernier point inquiétant, on sait que les enfants sont en écrasante majorité asymptomatiques. Les infectiologues les considèrent donc comme, je cite, des super propagateurs, car on les repère moins facilement s'ils sont contaminés. Bref, du point de vue purement sanitaire, Julien, aucun argument ne justifie aujourd'hui la levée du port du masque dans les écoles primaires.
Merci Agathe Landais. Jean Rottner, je reviens vers vous. Vous, le président de la région Grand Est, on l'a dit, vos départements vont être concernés directement. Cette fin du masque à l'école, est-ce qu'elle vous préoccupe?
Ce qui me préoccupe souvent dans ce genre de mesures, c'est la bonne compréhension par la population. Vous l'avez dit, dans ma région, certains départements seront concernés par cette nouvelle mesure. Dans d'autres départements, la population ne sera pas concernée là aussi par ces nouvelles formes de mesures. Donc c'est souvent l'incompréhension. Pourquoi chez eux et pas chez nous? Ça ravive des polémiques. Donc attention, très souvent, moi je considère que les mesures les plus simples à expliquer sont celles qui s'appliquent à tout le monde, plutôt que d'avoir différents régimes. Ça ajoute souvent de la confusion.
D'autant que si on regarde dans le détail, il y a tout de suite des cas particuliers dans votre région, par exemple la Haute-Marne. Taux d'incidence 47 cas pour 100 000 habitants. Donc très bien, si on suit les consignes, on enlève le masque à l'école. Seulement voilà, chez les 0-9 ans, taux d'incidence en Haute-Marne, 175. Est-ce que là, dans ce contexte, on ne prend pas un risque avec une population des enfants qui, ça y est, maintenant retournent voir papy et mamie?
Mais je pourrais rajouter aussi que la Haute-Marne est un département avec une densité de population relativement faible, donc avec un risque de propagation peut-être moins forte que dans des départements plus fortement peuplés. Vous voyez, il y a un certain nombre de... Il y a un contexte général à prendre en charge, et c'est pour ça que moi, j'essaie toujours de dire, vraiment, mesure générale, mesure bien comprise, mesure particulière, et bien souvent, c'est la compréhension qui se fait jour.
Mais sur le fond, vous ne vous dites pas, c'est un pari de la part du gouvernement, un pari peut-être sur l'immunité collective quelque part, en laissant circuler le virus chez les enfants.
C'est aussi, ça répond aujourd'hui à une forme de pression sociale. On est élu, on est au contact de la population, on entend ce qui se dit. C'est vrai que le masque, de manière générale, est de moins en moins bien supporté. Il faut rappeler plus que jamais aujourd'hui son importance, les mesures de prévention, les gestes qui permettent d'être protégés, le gel hydroalcoolique, une forme de distanciation sociale. Mais c'est vrai qu'à l'école, chez les enfants, c'est souvent assez insupportable pour les parents comme pour les enseignants d'être obligés d'imposer ça à des enfants.
Donc vous ne vous opposez pas à cette mesure ?
Je la comprends, mais je la prends avec beaucoup de prudence, comme les infectiologues le disent. Aujourd'hui, je crois qu'il faut s'attendre de toute manière à plusieurs pics épidémiologiques encore devant nous. Il y a l'arrivée de l'hiver, il y a effectivement le fait qu'on soit moins dehors, que les pièces soient moins aérées. Donc on risque, c'est vrai, de nouvelles formes d'épidémie, mais il va falloir vivre avec.
Dans votre région, l'Alsace fait encore les gros titres, malheureusement, de l'actualité sanitaire. On l'a dit, on était à Mulhouse dans le journal il y a une dizaine de minutes. Plan blanc, Mulhouse, c'est votre ville. 170 salariés de l'hôpital ne sont pas vaccinés. Ils ont été suspendus. Plan blanc, cela signifie donc appel à des renforts possibles, déprogrammation malheureusement de soins. Est-ce que c'est une situation qui vous inquiète parce que c'est un hôpital où vous-même vous avez travaillé, Jean Rottner ?
Bien sûr, et c'est un hôpital qui a été largement concerné, souvenez-vous, par le premier pic épidémique, puisque on s'est pris un vrai rouleau compresseur viral en 2019. Ce que je veux dire, c'est que le nombre de personnes suspendues à l'hôpital de Mulhouse n'est pas supérieur aux autres hôpitaux de la région. C'est une situation plutôt multifactorielle, avec une grosse clinique privée qui est également concernée par des suspensions, des arrêts de maladie, du manque de personnel médical et paramédical, et qui a pris une décision assez unilatérale de fermer un certain nombre de ses activités, qui se déportent sur l'activité publique, et ce qui impose aujourd'hui à l'hôpital public de prendre une décision, effectivement, de passer en plan blanc, de telle manière à assurer une forme de continuité des soins et de pouvoir reporter les opérations dites non urgentes. C'est une décision sage, réfléchie aujourd'hui, qui est travaillée encore toute la journée avec les médecins libéraux, avec les professionnels de santé, de telle manière à ce qu'elle se pérennise le moins longtemps possible.
Mais alors, Mulhouse n'est visiblement pas un cas isolé en Alsace. Tiens, je voudrais vous faire écouter le témoignage de Valérie, parce qu'elle est infirmière à l'hôpital de Colmar. Elle a appelé RTL au 3210 pour témoigner. Écoutez-la.
On rencontre quand même de grosses difficultés liées au fait que certains soignants n'ayant pas voulu se faire vacciner soient suspendus. C'est-à-dire qu'il y a eu une fermeture de deux services déjà. Un service de traumatologie qui a fermé. Il y a un service de soins de suite qui a fermé aussi. À Mulhouse, on a déjà déclenché le plan blanc. J'en discutais avec le médecin ce matin et il est fort probable que sur Colmar, on en arrive à ce stade-là. Et vu la tournure que prennent les choses actuellement, il y a de fort risque qu'on évolue vers une déprogrammation d'intervention.
Jean Rottner, on entend cette tension à Mulhouse, à Colmar maintenant, avec ce témoignage d'une auditrice. On l'a dit, c'est une conséquence aussi de la non-vaccination de certains soignants. Et c'est vrai que dans le Grand Est, quand on regarde les chiffres, il y a des disparités sur les doses. Dans le Haut-Rhin, la Meuse, on a 65-67% de personnes qui ont reçu au moins une injection. C'est 10 points en dessous de la moyenne nationale. Comment vous l'expliquez, alors même que vous l'avez dit, vous avez, pour reprendre vos mots, subi ce rouleau compresseur viral il y a un an et demi ?
Vous savez, je crois que la liberté de chacun est un droit, mais le devoir de se vacciner pour les soignants est aujourd'hui une véritable obligation. Ça fait pas plaisir à tout le monde quand on dit ça, mais là aussi, c'est à la fois le médecin et l'homme politique qui vous parlent. C'est quelque chose, je pense, de tout à fait normal. Quand on devient soignant, on se vaccine contre l'hépatite B, compte tenu de la situation virale aujourd'hui dans nos établissements. Mais il est normal pour moi de se faire vacciner. Certains considèrent que par leur choix, par leur liberté, liberté, ils n'ont pas à le faire. Et on arrive à des situations, effectivement, qui sont des situations de blocage compte tenu des décisions qui ont été prises au niveau national. Et c'est vrai que dans certains de nos départements, nous n'arrivons pas à progresser en matière de vaccination.
Comment
Dieu sait qu'on y a travaillé, les communes, les intercommunalités, le département, la région, on a essayé de progresser, on a mis des vaccibus, on a multiplié les centres de vaccination, on est allé vers les publics en difficulté, mais c'est vrai qu'on n'arrive pas aujourd'hui à dépasser une sorte de plafond de verre. C'est clair, c'est net et on en paye les conséquences, en tout cas dans nos hôpitaux.
Merci Jean Rottner, président LR de la région Grand Est, d'avoir été ce soir notre invité sur RTL. On va marquer une petite pause et ensuite RTL Soir va continuer avec Laissez-vous tenter dernière. On va vous emmener à Deauville pour la grande réunion annuelle de tous les patrons de cinéma. Ils s'apprêtent à découvrir 250 bandes-annonces. Bref, juste après ça, le programme grand écran de votre année. Et puis on va aussi rappeler les grands titres de l'actualité avec Marion Calais. Il y a un communiqué commun qui vient d'être publié entre Emmanuel Macron et Joe Biden. On va tout vous expliquer juste après ça. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Sellier.
RTL. 18h32.
RTL Soir avec Julien Sellier.
Allez, bonne fin de journée. Vous écoutez RTL. Si vous vous branchez à l'instant, Marion Calais vous rappelle les grands titres de l'actualité. Actualité qui évolue parce que la crise des sous-marins semble s'apaiser.
Exactement. Joe Biden et Emmanuel Macron se sont donc parlé tout à l'heure. Tous deux ont convenu que des consultations ouvertes auraient permis d'éviter cette situation. L'ambassadeur de France fera son retour aux États-Unis dès la semaine prochaine et les deux présidents se rencontreront fin octobre. C'est une indiscrétion qu'RTL vous révèle. Dans le journal de 18h, les Républicains se dotent d'une clause pour éviter un scénario présidentiel à la Fillon en 2017. Si le candidat prochainement désigné devait être empêché, il pourrait être débranché par le bureau politique du parti. Et puis après la diffusion du QR code du pass sanitaire d'Emmanuel Macron, les suspects, les soignants suspects qui auraient diffusé le pass du président ont été identifiés et une saisie de leurs ordres professionnels est en cours.
Merci beaucoup Marion. Bonne soirée. Le temps maintenant avec vous, Peggy. Sympathique demain encore?
Très sympathique, très ensoleillé, après dissipation de quelques brouillards le matin. Dans l'après-midi, le seul bémol sur les Pyrénées, quelques nuages, voire une averse. Et sur le littoral de la Manche, avec des nuages. Les températures vont rester fraîches demain matin et stationnaires l'après-midi. De 19 à 27, 19 à Abbeville, à 27 à Perpignan, 23 à Paris et 25 à Auch.
Merci Peggy.
Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur rtl.fr. Laissez-vous tenter dernière.
Et place à Laissez-vous tenter dernière maintenant, les bons conseils chaque soir de la bande de LVT. Alors aujourd'hui c'est ciné et on va s'intéresser à toute la programmation 2021-2022 près de chez vous. Je sais c'est ambitieux mais rien n'arrête Stéphane Boutsock. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Julien, bonsoir tout le monde.
Vous êtes à Deauville pour RTL pour le 76e congrès de la Fédération Nationale des Cinémas Français. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui s'y passe exactement?
Alors vous savez que les agriculteurs ou les amateurs d'automobiles ont leur salon.
Oui.
Eh bien les exploitants de salles de cinéma aussi, ils sont plus de 2000 en France. Et tous les ans, ils se retrouvent ici à Deauville pour 4 jours de rencontres, de tables rondes, de conférences, de projections. Vous vous doutez bien que les sujets ne manquent pas en cette période d'après-Covid. Tous les acteurs du secteur sont réunis au même endroit. Diffuseurs de films, producteurs, distributeurs, autorités compétentes ou officielles. Ça peut vous sembler là très technique, mais c'est aussi durant ces quelques jours que se dessine notre cinoche de demain, puisqu'on y parle aussi matériel technique, écran, fauteuil et même des nouveautés à venir en matière de confiserie.
Oui, parce que demain, il y aura une journée très importante.
Oui.
Et elle concerne directement tous les fans de ciné qui sont en train de nous écouter.
C'est ça. Ça s'appelle la journée des éditeurs de films. Ça dure de 9h30 à 20h30. Pour faire simple, tous les studios qui vous proposent leur long métrage en salle, c'est-à-dire entre autres Pathé, Gaumont, UGC, Warner, Universal, Disney et les autres, tous donc passent dans la grande salle du Centre International de Deauville. C'est un des plus grands écrans de cinéma de France, pour présenter les bandes-annonces de leurs films des 12 prochains mois. Chaque année, nous envoyons plus de 250, des plus petites aux plus grosses productions, et ça donne franchement une bonne idée de ce que sera l'année ciné à venir.
Et bien vivement demain. Merci beaucoup Stéphane Boutsock depuis Deauville pour RTL. On vous retrouve demain avec la bande de LVT pour la quotidienne 9h, 9h30, avec notamment le comeback d'Adrien Gallo des Bébés Bruts.
De ne jamais avoir le choix, tout n'est que misère quand
monde.
Allez, on marque une courte pause et dans un instant, non, ce ne sera pas misère du tout. On va défaire le monde jusqu'à 19h dans RTL Soir. Bien au contraire, Cyprien Sini, Céline Landreau, Laurent Tessier, Arthur Ascan entre en studio. Bonsoir les amis.
Bonsoir, bonsoir à tous. Arthur a failli être en retard.
Mais, oui, failli simplement. Ouais, il est toujours en retard. Au menu, entre autres, dans un instant, cette question. Qui sont les ultras? Nous sommes à aller un peu plus d'un quart d'heure du coup d'envoi d'une journée de Ligue 1 encore marquée par des huis clos après les incidents à Lens le week-end dernier. Nous avons enquêté, à tout de suite sur RTL.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.